pour une théorie du nouveau roman avec Jean Ricardou. Auteur de fiction, l'Observatoire de Cannes, la prise de Constantinople, les lieux-dits, Révolution minuscule, et de textes théoriques, problème du nouveau roman publié en 1967 au Seuil, Jean Ricardou appartient depuis 1962 à la rédaction de la revue telle qu'elle. Dans son second volume théorique, dont il va être question aujourd'hui, et intitulé « Pour une théorie du nouveau roman », également édité par les éditions du Seuil, Jean Ricardou prolonge donc les recherches ouvertes par « Problème du nouveau roman », livre dont on avait pu écrire à l'époque qu'il accordait romancier et critique.
Je vous instruirai avec plaisir de la partie technique de notre art et nous lirons ensemble les écrits les plus remarquables. Novalis.
Jean Ricardou répond aux questions de Jean Paget.
Dans votre essai sur le nouveau roman, vous commencez par examiner un certain nombre de textes et vous examinez d'abord la nouvelle de Poe, le Scarabée d'or, puis quelques textes de Valéry à propos du roman et de la poésie. Alors en quoi Poe et Valéry vous paraissent-ils des précurseurs? Ils sont en quelque sorte des précurseurs, du moins Poe comme écrivain et Valéry comme penseur en la circonstance.
Oui, dans votre énumération, vous omettez Roussel.
Il y a ensuite Roussel, n'est-ce pas? Oui.
Qu'il ne faut pas omettre. Je crois qu'on l'a beaucoup omis dans toutes sortes de secteurs et je ne vois pas qu'il faudrait continuer à le faire dans notre propre entretien. Eh bien d'abord, si vous voulez, pour poser le problème, certains peuvent penser que le fait d'articuler les recherches, disons, du nouveau roman à des textes passés, comme ceux de Poe et de Roussel, par exemple, et sous un autre angle, des textes de Valéry, est une manière de montrer que finalement, le nouveau roman n'est pas si nouveau, puisqu'il s'articule si bien à des textes du passé. Cette articulation, en vérité, doit s'entendre, à mon sens, de façon contraire, c'est-à-dire qu'au contraire, cette articulation permet de voir, au contraire, que dans des textes qu'on avait soit assimilés assez facilement, semble-t-il, comme ceux d'Edgar Poe, ou que l'on avait occulté complètement, comme ceux de Roussel, ou que l'on avait accepté aussi sous un certain versant académique en ce qui concerne Valéry, eh bien, il y a au contraire, avec l'articulation que j'essaie d'établir, un processus qu'on pourrait appeler de réactivation, c'est-à-dire que dans ces textes-là, qui avaient été refusés ou trop facilement acceptés, les pratiques modernes du texte permettent de les lire autrement et, en quelque façon, de faire apparaître en eux certains aspects tout à fait nouveaux qui n'apparaissaient peut-être pas tellement. Ce qu'il y a chez Poe de très intéressant, c'est qu'il insiste, aussi bien dans ses essais de théorie que dans la pratique de ses fictions, il y a un effort de composition, c'est-à-dire que le texte est entendu comme un espace particulier issu d'une certaine composition et d'un certain travail du langage. Voilà qui nous écarte radicalement de tout romantisme, si vous voulez, c'est-à-dire du XIXe siècle. Si par certains de ces thèmes, Edgar Poe a pu passer pour un romantique, en vérité, cela n'est justement qu'une apparence thématique. En vérité, toute sa conception du texte est une conception anti-romantique, c'est-à-dire que pour Poe, le texte est le résultat d'un certain travail, en particulier de composition, et plus de détails, on peut montrer aussi qu'il est un travail langagier, c'est-à-dire non seulement de la composition du texte, mais également sur la matière du langage qui est mise en cause. Alors là, bien entendu, Cela rejoint, recoupe certaines préoccupations du nouveau roman. Chez Roussel, on peut dire qu'il s'agit de la même chose, puisque la composition des textes de Roussel est à la fois extrêmement savante et élaborée, et n'a aucune prétention à recopier un prétendu réel. Et cette disposition des textes obéit tout à fait à des nécessités d'ordre langagier. Alors voilà pourquoi ces deux auteurs, tout naturellement, se trouvent à l'orée de mon essai.
Vous parlez à propos de Roussel d'écriture dans l'écriture. C'est précisément ce que vous venez de dire. Il s'agit de se préoccuper à la fois de l'espace et du langage. Qu'appelez-vous l'écriture dans l'écriture, à propos de Roussel ?
Peut-être que ce n'est pas exactement la formule que j'emploie, mais ce que l'on pourrait entendre, en effet, à partir de ce que je dis par la formule l'écriture dans l'écriture, c'est que, en dehors de ce processus de composition et de travail langagier dont j'ai parlé, il y a un autre phénomène qui est comme le redoublement de celui-ci, comme diraient certains son aggravation, c'est que le texte, étant un espace particulier composé, étant un travail langagier, n'a plus du tout la prétention de représenter un quelconque quotidien. Mais en même temps, cela ne veut pas dire qu'il perd dans ses textes toute fonction représentative. Sa fonction représentative est déplacée sur un autre objet, et cet autre objet, c'est en quelque façon lui-même. C'est-à-dire que, cessant de vouloir représenter un quotidien, il se met en quelque façon, de façon quelquefois subtile, décalée, il se met à se représenter lui-même, à s'auto-représenter. Et notamment, c'est sensible tout à fait dans la fin d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe, où des caractères d'écriture apparaissent, n'est-ce pas, dans ce qu'on peut considérer comme une espèce de réalité géographique, n'est-ce pas. Et chez Roussel, cela apparaît aussi sans arrêt. L'écriture a pour objet elle-même, et ce qui est représenté dans le texte, c'est l'écriture qui est en train de produire le texte. Il y a là une espèce de redoublement et de paradoxe qui rend ces textes comme gauche, n'est-ce pas, comme retors, pourrait-on dire, tordu, comme deux fois, n'est-ce pas, qui en fait, à mon avis, tout l'intérêt moderne.
Ailleurs, vous parlez alors de la bataille de la phrase. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une destruction à la phrase classique telle qu'on l'entendait et qu'il y a une nouvelle phrase qui s'est créée? Vous parlez de fragments et de vocables producteurs.
Bataille de la phrase vient du fait que, à partir du moment où il n'y a pas d'objet préalable à représenter, à ce moment-là se pose le problème comment et quoi introduire dans le texte. Qu'est-ce qui va jouer dans le texte un rôle thématique? Alors, c'est en ce sens qu'il y a une bataille de la phrase. C'est que, à vrai dire, tout, absolument tout, puisqu'il n'y a plus de schéma préalable de type quotidien, tout peut venir confluer dans la phrase, venir fabriquer la phrase, venir, en quelque façon, entre guillemets, la remplir. Et à ce moment-là, chaque phrase est l'objet d'un conflit extraordinaire entre tout ce qui peut venir s'y inscrire. C'est en ce sens que j'ai parlé de bataille de la phrase. Et alors, ça rejoint très justement, comme vous l'avez noté, la notion de production, de génération du texte. Et l'on arrive à cette idée que, du fait que tout ne peut pas être introduit, il doit bien y avoir des principes de sélection et des principes d'organisation, c'est-à-dire des principes, disons, générateurs. En ce sens, on peut dire que la phrase, syntaxiquement, n'est pas forcément changée. Quelquefois, la syntaxe se trouve plus ou moins transformée. D'ailleurs, chez tout écrivain, il y a un jeu de subversion syntaxique. C'est un jeu qui peut être minuscule, n'est-ce pas, mais qui n'en est pas moins réel, mais qui peut être aussi beaucoup plus vaste. En tout cas, à mon sens, s'il y a destruction complète de la syntaxe, c'est-à-dire éparpillement de mots sur la page sans qu'aucun rapport syntaxique ne puisse plus exister, il n'y a tout de même plus de texte, n'est-ce pas? Alors, les possibilités évoluent entre ces deux extrêmes, ou une syntaxe répétitive académique, n'est-ce pas, qui ne permet pas d'accéder au texte, ou un éparpillement de mots sans liaison syntaxique qui ne sont plus le texte non plus. Le texte est donc entre les deux, et il est fait donc notamment de phrases et surtout donc de leur assemblage. Mais pour faire entendre un peu ce qui permet de produire donc ce texte, il faut faire intervenir cette notion de générateur, et on peut imaginer qu'à partir du moment où justement il n'y a pas un préalable à dire, n'est-ce pas, un quelque chose à dire, ce qui va être dit, car des choses vont être dites, est un produit qui n'existe donc pas encore et qui va se produire notamment à partir d'un vocable générateur. J'ai montré à propos de la route des Flandres comment, à partir d'un mot, le mot jaune, n'est-ce pas, Claude Simon tire une infinité d'éléments que nous pourrions appeler thématiques. Il prend jaune dans d'abord toutes ces acceptions au niveau de ce qu'on appelle les signifiés, disons le sens, n'est-ce pas, du mot. Alors tous les jaunes du texte qui sont innombrables, tous les dorés, tout ce qui a une ressemblance nette avec la notion de jaune. Alors tout ça donne un ensemble thématique extraordinaire, depuis la pompe à essence Shell, jusqu'au soleil qui jaunit une feuille, jusqu'à de la bière, n'est-ce pas, jusqu'à de l'urine, etc. Nous avons là, à partir de cette remarque, nous voyons que tout le texte, enfin une part très importante du texte est couverte par cette façon de produire, mais également on peut prendre le vocable au niveau de ce que l'on appelle son signifiant linguistique, qu'on pourrait appeler rapidement ici pour être accessible à tous, les sons qui composent ce mot et les lettres qui composent ce mot. Et alors, on voit également que en faisant tous les anagrammes possibles du mot « jaune », n'est-ce pas, en supprimant des lettres, etc., on peut obtenir le mot « ange » ou le mot « auge » ou toutes sortes de mots de cette sorte, on s'aperçoit qu'on a encore tout un champ thématique qui s'ouvre, et on retrouve cela très bien dans le livre de Claude Simon. Donc voilà en quoi à la fois le mot peut être générateur, n'est-ce pas, de tout un texte. Et c'est un concept absolument nécessaire, celui de génération et de générateur, à partir du moment où on a quitté le texte représentatif ou expressif. C'est absolument nécessaire.
Oui, le mot devient donc générateur également de thèmes, n'est-ce pas?
C'est cela.
Alors, chez Rob Grier, par exemple, il semblerait qu'il y ait des images génératrices dans Le Voyeur, par exemple. Il y a toutes les courbes, enfin, tous les cercles, tous les ronds, tous les huit de l'histoire. Est-ce que là, vous pensez que ce sont des images génératrices ou ce sont également des mots représentatifs?
C'est également un mot qui est générateur dans Le Voyeur, par exemple. C'est le mot huit, mais pris à son niveau de sens, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le 8 est pris ici comme désignant le chiffre 8, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il peut s'interpréter comme deux cercles à coller, etc. Mais également, on pourrait prendre aussi le 8 comme nombre 8 cette fois-ci. Et à ce moment-là, on l'aurait comme générateur numérique et non plus géométrique. Et on aurait alors des livres construits sur le nombre 8, ce qui est le cas de mes propres livres, par exemple, La prise de Constantinople est construit entièrement sur le nombre 8. Voilà encore une possibilité génératrice d'un mot, le mot 8. C'est l'autre face. En quelque façon, je me suis amusé, pourrait-on dire, à proposer l'autre face productrice du mot 8, correspondant à celle du voyeur, n'est-ce pas, l'autre côté.
Alors ce roman qui est aussi un texte, enfin qui n'est plus un roman, qui est un texte en train de produire, mais de se reproduire, si je peux dire. Ce roman, vous dites aussi qu'il fait partie alors d'une fiction plus vaste, dans laquelle la plupart des écrivains du nouveau roman, d'ailleurs, veulent s'insérer. Et alors on a des séries de textes ou de romans. Mais alors pourquoi cette notion, n'est-ce pas, de continuité dans la fiction?
Oui, ce que nous comprenons aussi, c'est que, d'une part, un texte n'est pas une représentation, je crois qu'il faut encore le redire, mais en même temps, du fait qu'il s'auto-représente, c'est-à-dire qu'en quelque façon, il se dédouble, n'est-ce pas, pour se représenter, il se dédouble entre une sorte d'objet et d'image, bien qu'il n'y ait pas de différence de statut à l'intérieur. Il y a un miroitement interne, c'est-à-dire au moins une dualité. Et de la même façon, ce rapport intertextuel, ou plutôt ce rapport intratextuel, suppose des rapports intertextuels. Ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est qu'un texte s'écrit en référence avec lui-même, mais aussi en référence avec d'autres textes qui ont déjà eu lieu, qui peuvent être les textes du même auteur, ou qui peuvent être des textes d'autres auteurs du passé, n'est-ce pas ? Et de la même façon, il est en relation avec peut-être des textes à venir du même auteur, et supposons-le, d'auteurs à venir. On a là donc désormais une notion nouvelle, qui pourrait être la notion d'intertextualité, n'est-ce pas ? Où il y a, en somme, une expansion de la fiction. Il y a le livre, le roman, qui est une fiction, mais également on peut peut-être grouper plusieurs livres pour en faire des fictions plus importantes ou introduire certains éléments d'autres fictions pour comprendre les éléments peu compréhensibles ou inaperçus d'une fiction nouvelle. Par exemple, dans la mise en scène de Claude Ollier, on s'aperçoit qu'il y a des allusions très nettes à certains romans de Flaubert, à, par exemple à Bouvard et Pécuchet. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le livre en lui-même est intelligible. Mais si on actualise ces références et si on met en rapport les deux textes, on a un enrichissement de la fiction du livre d'Ollier. On a de nouveaux rapports qui se laissent lire et par conséquent, il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de fermer un texte sur lui-même, il y a lieu de l'ouvrir à toutes sortes de fictions nouvelles. On aurait là une espèce de fiction générale où tout le monde puiserait des éléments et où chacun arriverait à faire de nouveaux rapports. Car le problème, c'est de rendre possible le maximum de rapports nouveaux, de rapports qui n'existaient pas.
Alors ces rapports qui n'existaient pas, j'aimerais bien que vous en parliez aussi. Et puis je voudrais aussi que vous me parliez de la disparition alors, du personnage lui-même, du roman. Dans tous ces romans jusqu'à présent dont nous avons parlé, le personnage disparaît. Et puis alors bientôt, avec la littérature de telle qu'elle, on n'aura plus qu'une personne grammaticale comme protagoniste du livre.
Les rapports qui commencent à apparaître sont inouïs et sont en vérité d'une grande complexité. C'est seulement la plongée dans un texte et l'attention à toutes sortes d'éléments de ce texte qui permet de percevoir ces rapports nouveaux. Il est difficile, hors texte en quelque façon, par un commentaire latéral, de les faire rapidement surgir. Néanmoins, je voudrais insister sur certains rapports. Par exemple, le fait de considérer le texte comme un espace avec ses particularités a permis de porter l'accent sur quelque chose qui était certainement déjà connu, mais que l'on peut souligner maintenant, et qui est celui, par exemple, du rapport des premiers paragraphes du texte et des derniers paragraphes du texte. Cela a été rendu d'autant plus visible que le nouveau roman a multiplié les textes cycliques, c'est-à-dire où la fin et le début sont véritablement en rapport. Alors, nous savons bien que dans la recherche du temps perdu, le premier mot, c'est longtemps, et nous savons que le dernier, c'est temps, c'est-à-dire qu'entre les deux, il y a un rapport très, très net, n'est-ce pas, qui traverse l'épaisseur des 7 ou 8 000 pages, n'est-ce pas, ou 3 ou 4 000 pages du livre de Proust, n'est-ce pas. Nous savons que Joyce également, dans Finnegan's Wake, a établi une phrase dont le début est à la fin et dont la fin est au début du livre. Et par conséquent, nous avons déjà quelques idées de cela, mais le nouveau roman en particulier, disons Claude Simon dans La bataille de Pharsale, en reprenant à la fin la phrase du début, n'est-ce pas, également, et toutes sortes de textes qui ont mis en place ces deux parties du texte qui ont quand même une particularité, nous permettent maintenant de lire dans des textes du passé des phénomènes semblables. Alors ce rapport nouveau entre le début et la fin, plus serré, plus lié et établissant souvent des structures cycliques, on le voit par exemple dans Bouvard et Pécuchet, où, malgré, enfin, à ma connaissance, la multitude des thèses et des écrits, il ne semble pas qu'on se soit aperçu qu'il y ait justement un parfait renversement des éléments qui composent le premier paragraphe et le dernier qui n'est pas écrit, mais qui se trouve inscrit dans les projets de Flaubert, puisque la première phrase parle d'un canal, le canal Saint-Martin, couleur d'encre, n'est-ce pas, avec sur ce canal, sur cette eau noire, du bois, n'est-ce pas, une péniche, je crois, qui contient du bois. C'est-à-dire qu'on a, si l'on veut bien lire de façon un peu moderne, c'est-à-dire en pensant que le texte peut désigner son écriture, on a là véritablement une désignation du lieu où l'écriture se produit, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'on a l'encre et qu'on a le bois, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'encre et le pupitre. Or, justement, ils sont renversés, c'est-à-dire que le bois est par-dessus l'encre, c'est-à-dire qu'on a renversé le pupitre. Or, cela correspond justement à la situation de Bouvard et Pécuchet, qui sont des copistes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qui étalaient de l'encre, n'est-ce pas, sur une feuille de papier posée sur du bois. Et ces deux copistes-là ont décidé de renoncer au métier. L'un est à la retraite et on y renonce. Et tout le livre commence là-dessus. Et à la fin, on s'aperçoit que, justement, les derniers paragraphes devaient être consacrés à ceci, n'est-ce pas ? Ils font confectionner un écritoire en bois par un menuisier et ils achètent des instruments pour écrire, c'est-à-dire qu'ils vont acheter de l'encre. Alors on voit qu'entre les deux volumes, n'est-ce pas, qui devaient avoir lieu, le premier paragraphe et le dernier, il y a un exact rapport de renversement, à la fois retour, circularité et également renversement. Cette circularité renversée, on la rend par ce qu'on appelle l'anneau de Möbius, n'est-ce pas ? Et nous voyons là, donc, entre deux événements qui n'ont peut-être pas été rapprochés, des rapports nouveaux que le texte a produits, mais qui n'étaient peut-être pas tout à fait clairement lus. Également, ce qui apparaît, c'est une notion tout à fait nouvelle qui concerne, disons, la fiction, c'est la disparition du personnage.
Pour laisser alors les rapports plus clairement s'établir, cette disparition du personnage, ou bien au contraire, c'est parce que ces rapports nouveaux l'éliminent automatiquement.
Mais c'est exactement cela, c'est-à-dire que le personnage est lié à des dispositifs représentatifs. À partir du moment où le texte cesse d'être représentatif et où il fonctionne avec des lois spécifiques, le personnage, on peut dire, était déjà condamné à mort, n'est-ce pas ? Et devait disparaître. C'est, à mon sens, l'un des aspects irréversibles du texte moderne, c'est qu'il élimine peu à peu, mais ça n'est pas facile, bien entendu, le personnage, aussi bien Claude Ollier que Rob Grillet, Nathalie Sarraute que Claude Simon, moi-même dans mes propres travaux, et chacun à notre façon, avec des procédés qui correspondent au fonctionnement spécifique de nos textes, nous pouvons voir que le personnage, plus ou moins, subit des détériorations et que ces livres-là ne peuvent plus être compris par les gens qui veulent absolument qu'il y ait des personnages dans les livres, c'est-à-dire qu'il y ait eux-mêmes, n'est-ce pas ? Car les personnages, c'est ce qui permet d'identification. Autrement dit, tous les gens qui veulent simplement que les livres leur permettent de se retrouver, n'est-ce pas ? Ne peuvent pas lire, mais ces gens-là, de toute façon, n'ont jamais su lire, je crois, il faut le dire très nettement. Et ce mouvement d'abolition du personnage, qui n'est pas du tout une abolition de la littérature, n'est-ce pas, et qui n'a rien à voir, d'ailleurs, non plus avec l'abolition de l'homme, il ne s'agit pas du tout, n'est-ce pas, d'abolir l'homme parce qu'on abolirait le personnage. Le personnage n'est pas l'homme, le personnage est un aspect d'une fiction, ça n'est pas autre chose. Certains prennent à propos de la disparition du personnage des positions d'angoisse apocalyptique qui me semblent tout à fait hors du sujet. En tout cas, ce mouvement, non seulement ne s'est pas atténué, mais il s'est aggravé dans les dernières productions du nouveau roman, dans les derniers livres de Rob Grillet, dans le dernier livre, dans l'avant-dernier livre en tout cas de Claude Simon, la bataille de Farsal, et également un autre travail connu sous le nom, disons rapidement, de tel quel, lui a fait subir une sorte de saut, à la fois dans la même direction, mais dans un autre domaine, où le personnage n'est même plus avili de toutes sortes, détruit, déchiré, mis en cause de toutes les façons, mais il est en quelque façon, lui, complètement éliminé au profit d'un nouveau problème, qui est celui, justement, des personnes grammaticales qui jouent leur rôle syntaxique, bien entendu, sous forme de pronoms dans la phrase, sans que jamais un personnage ne puisse l'investir et s'y fixer pendant une durée très longue. Pendant la durée de quelques mots, de quelques phrases, on peut sentir comme la naissance d'un personnage, mais aussitôt, le texte est fabriqué de telle manière que cet investissement est arrêté et que l'on se trouve devant une nouvelle personne vide qui va peut-être être rempli, mais de la même façon, sans que jamais quelque chose de stable au niveau des personnages puisse prendre. Donc, il semble là, si l'on veut bien considérer que, en tant qu'ensemble plus ou moins organisé, c'est-à-dire l'ensemble nouveau roman et l'ensemble tel quel comme symptomatique de ce qui se fait de moderne, si l'on veut bien accepter cette hypothèse, il semble que la littérature moderne aille véritablement vers une mise en cause à divers niveaux du personnage et à une mise en cause par là de la représentation. À mon avis, c'est à cela qu'on assiste en littérature aujourd'hui, à la fin de la représentation.
Cette mise en cause de la représentation vous amènera à prendre quelle décision en matière de littérature ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir peut-être une sorte de vide si le personnage, même abîmé comme chez Robbe-Grillet, quand il devient personne grammaticale comme chez Baudry, la lecture est en tout cas beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui n'est pas versé dans ces problèmes.
Oui, certainement, la lecture devient plus difficile. Mais la lecture, le chinois aussi, c'est très difficile pour nous. Mais le chinois, ça s'apprend, et la lecture aussi. Quelqu'un qui n'est pas versé peut le devenir, il lui suffit d'apprendre à lire. Et justement, ce qui est important, peut-être, dans ce que certains d'entre nous sont en train de faire, c'est que nous exigeons que les gens apprennent à lire. Parce que, évidemment, lire, ça n'est pas uniquement déchiffrer ce que l'on nous a appris à l'âge de 6 ans, n'est-ce pas ? Nous considérons que nous ne savons pas lire, n'est-ce pas, aussi bien nous qui écrivons les livres, n'est-ce pas ? Et que l'une des fonctions de la littérature, c'est d'apprendre à lire, c'est-à-dire à explorer toutes les possibilités possibles de rapport entre les signes, c'est-à-dire, finalement, entre les choses. Alors, c'est à cela que nous convions les gens, c'est-à-dire une entreprise profondément utile et probablement nécessaire, surtout dans un monde où les signes graphiques ou visuels se font de plus en plus nombreux. Il est temps d'apprendre véritablement à les lire jusqu'au plus loin des rapports qu'ils nous proposent. Alors là, justement, c'est cela que rend possible le texte moderne. Alors, si le personnage disparaît et que, en compensation, le lecteur est mis en mesure d'apprendre à lire des rapports nouveaux, mais évidemment, ce qui est positif, c'est de faire disparaître le personnage si c'est pour permettre au lecteur d'apprendre et de savoir beaucoup mieux lire qu'avant.